Oui, mais puisqu'on parle des poètes, là, avant toute chose, les circonstances m'amènent à saluer le départ d'un poète formidable qui, depuis plus de 15 ans maintenant, installé à la Gare Franche, porté dans ces quartiers difficiles la parole poétique. Je veux parler de notre compagnon de route, Vladislav Snorko, qui, le 4, a pris le même train que Savary, peut-être pas dans le même compartiment, mais enfin, en première classe, certainement, parce que ce poète-là trimballait un monde particulier qui, depuis qu'il travaille dans l'art dramatique, fait souffler un vent différent sur l'expression théâtrale. Alors, à Vlad, compagnon de route, parce que de toute façon, les poètes ne s'en vont jamais très loin, même si la destination est inconnue, il y a quelque chose qui reste imprimé dans les maisons qu'ils ont fréquentées. Et que ce soit au Tourski ou à la Guerre Franche ou dans tous les endroits où il est allé poser son sac, le capitaine Vlad va encore planer sur les rêveries poétiques des artistes qui ont à leur tour maintenant une mission de partager.
Peut-être un souvenir d'Odyssée 2007 sur le Danube avec le capitaine Vlad, justement.
Oui, Vlad, non seulement... Il faut que je parle de Vlad avec ce spectacle qui m'avait complètement enthousiasmé à Paris, au Théâtre de la Bastille. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il proposait une création qui s'appelait L'attrapeur de rats. Et j'étais très intrigué parce que avec Léo, on avait écrit l'opéra des rats. Et je me suis dit, tiens, attrapeur de rats. Et je suis allé voir ce spectacle. Je suis sorti en pleurant. D'ailleurs, en y pensant, je pleure presque encore. Et ce poète que je découvrais, qui m'a fait frissonner, j'ai eu envie de le connaître. Donc je l'ai cherché après le spectacle. On m'a dit que je le trouverais pas parce qu'il était dans un bistrot. Et j'ai fait le tour des bistrots alentour. J'ai pas trouvé le capitaine Vlad. Et j'ai laissé comme là des bouteilles à la mer. J'ai écrit, j'ai téléphoné, j'ai fait savoir par des gens qui étaient supposés le rencontrer dans des bistrots ou ailleurs, lui dire qu'il y avait à Marseille un saltimbanque touché par son travail et que je serais bien heureux de le connaître. Et j'ai plus entendu parler de lui pendant des mois. Et puis un jour, j'ai vu arriver dans mon bureau un monsieur qui m'a amené une bouteille et qui me dit « Je suis Vlad, partageons cette bouteille, voilà, tu me cherches, je suis là, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc j'ai dit « Écoute, voilà, je suis heureux que tu sois arrivé jusqu'à Marseille. » Et on a commencé à rêver ensemble. D'abord, on a fabriqué la bande des archers, la revue des archers. La bande des archers, surtout, c'était une boutade au départ avec Gudin, Simoneau, Gérard Cognot, une poignée de poètes étranges qui avaient envie de rigoler. Et cette équipe des archers, qui au départ n'était qu'une poignée d'artistes ou d'écrivains, est devenu maintenant un mouvement absolument étonnant de saltimbanques réveillés, debout, qui partout dans les pays que l'on a traversés ont créé une armée vigilante et résistante de clowns joyeux mais lucides et attentif. Et on peut dire que de cette rêverie avec Vlad au départ,
maintenant des milliers d'artistes à travers le monde sous l'étiquette des archers qui ont pour devise mort au con, se connaissent, se connectent, s'aiment et partagent leur joie et leur tristesse. Et aujourd'hui gémissent ensemble, sachant que Vlad a pris ce train-là. Mais bon, et il a toujours été un éclaireur. Un poète est un éclaireur, donc c'est normal qu'il parte en reconnaissance. J'espère qu'il pourra nous faire un fraternel coucou pour nous dire, écoutez, la mort est gourmande, n'ayez pas peur de la goûter aussi.
C'est par cet hommage rendu par Richard Martin, directeur du théâtre Tourski, à Vladislav Snorko, poète et metteur en scène, fondateur du Cosmos Collège et de la Gare Franche à Saint-Antoine, mort dans la nuit du 4 au 5 mars dernier, que débute cette émission spéciale sur les 3-8 en souvenir de Snorko. Une émission réalisée à partir des archives radiophoniques de la Grenouille. Une émission imaginée aussi à l'occasion de la lecture de Zoologie des Faubourgs, un texte de Vladislav Snorko, qui sera lu ce soir par les acteurs Denis Lavant et Florence Mazur à 20h à la Gare Franche. Gare Franche qui rouvre à cette occasion ses portes au public après quelques travaux. Denis Lavant, acteur fétiche entre autres du réalisateur Léos Carax, était passé par la radio en 2002 à l'occasion des représentations au théâtre Tourski du spectacle Les Saisons, d'après Maurice Pons, un spectacle où il incarnait le rôle de Siméon. Il nous avait parlé de sa rencontre avec Vladislav Snorko.
Depuis mardi dernier, sur la scène du Tourski, on peut voir Les Saisons de Maurice Pons, mise en scène par Vladislav Snorko. La pièce nous plonge dans l'univers à la fois poétique, sordide, burlesque, inhumain mais touchant, d'un petit hameau perdu dans la campagne profonde, isolé de tout contact, fermé à tout changement, où le froid, la pluie et les lentilles font partie de leur quotidien épouvantable. Un homme arrive, par hasard, dans ce hameau, mal accueilli au départ, il arrive à s'y faire une place. Cet homme, Siméon, est interprété par Denis Lavant, découvert par le grand public avec les films de Léos Carax. Il nous raconte sa rencontre avec Vladislav Snorko et le Cosmos Collège, Denis Lavant.
Et ça a commencé il y a 2 ans, ici même, quoi, à Marseille, je veux dire, et au Tourski, parce que je passais avec une pièce de Coltès, un monologue, qui s'appelle La nuit juste avant les forêts, donc j'étais seul en scène, sous la pluie. Et on a dû jouer ça une semaine aussi, et à l'issue d'une représentation, il y avait Vlad qui était là, et j'ai vu ce type, et puis moi j'étais en train de manger avec mes collègues, et puis on nous a présenté, quoi. Il y a des gens du Tourski qui nous ont présenté, puis on a parlé un petit peu comme ça, très, très, très sympathiquement, et puis il m'a parlé à ce moment-là de Maurice Pons. Et moi déjà, Snorko, ça m'avait fait un peu tilt parce que j'avais déjà entendu ce nom auparavant. Je me souviens qu'on s'était croisés à une époque, mais sans se voir, il y a une dizaine d'années, hein, peut-être un peu moins, 7-8 ans, quand j'étais chez Sobel, un spectacle que j'avais fait. Et donc, j'avais déjà entendu Sobel qui m'avait parlé de Snorko à cette époque, en me disant que c'était un type que ça valait la peine de le rencontrer, quoi. Et donc, je me trouve en face de Snorko, Vladislav, et il me parle de Maurice Pons, que je connaissais pas non plus, avec un projet comme ça. Et moi, j'adore les rencontres, en fait. Pour moi, le fait d'être comédien, de jouer, et puis de jouer à droite, à gauche, c'est une possibilité de rencontre d'autres gens qui ont un univers, qui ont un imaginaire, qui font des trucs, quoi. Et donc, j'essaie d'être le plus disponible à ça. Et il me parle de Maurice Ponce, des saisons, que je connais ni Dave ni d'Adam. Et il me dit, je te l'envoie, et puis on en reparle. Et quelques mois plus tard, moi je continue ma tournée sur Coltès, et il m'envoie, ou me fait parvenir le bouquin de Maurice Ponce, Les Saisons, et je le lis, et je découvre cet univers incroyable, et je vois le personnage de Siméon, notamment, et je me dis, mais je peux pas, c'est impossible que je joue pas ça, quoi.
Vous êtes complètement retrouvé dans le personnage.
Ça a éveillé tout de suite mon désir de participer à cette aventure, à ce spectacle, à partir de cette écriture. Quoi. C'était, mais sans rien connaître. Je connaissais rien du Cosmos Collège, ni de Vladislav, sauf un peu des bruits comme ça, des échos que j'avais eu par des amis qui avaient vu ces spectacles, mais c'était rien de concret. Quoi. Et moi, je fonctionne souvent sur un. À partir d'un engouement, quoi, d'un désir comme ça de rencontre et de jeu. Et donc j'ai dit, après j'ai revu Vladislav avec Philippe, son administrateur et de l'époque, qui a arrêté là juste maintenant pour écrire, enfin bref. Et donc on a dit d'accord, j'ai dit d'accord, mais ça fait un an et demi. Et puis on s'est pas revu, on s'est revu vaguement à Avignon. Quoi, l'an passé à la fin du but, moi j'étais sur les rotules totalement, quoi. Et on s'est retrouvés là en fait juste à Caen pour le début des répétitions, quoi, avec toute l'équipe. Et moi j'appréhendais beaucoup ça parce que je savais qu'il y avait un peu un noyau de comédiens avec lesquels il travaillait depuis longtemps. Donc pour moi c'était cet enjeu là un peu de faire connaissance avec un groupe, d'être un peu l'élément étranger aussi qui débarque au sein d'une communauté.
Un peu comme dans la pièce, d'ailleurs.
Justement, oui, c'est exactement ce qui se passe, quoi, l'itinéraire du personnage de Siméon dans la pièce. Donc j'aime toujours quand il y a une chose qui est comme ça, qui est cohérente dans le rapport humain et puis dans le rapport imaginaire du spectacle. Et voilà. Et on est arrivé jusque-là, finalement, sans trop de casse, quoi. Plutôt très agréablement, en fait. En fait, hier, c'était la troisième représentation des saisons, parce qu'on a joué déjà deux à Gap. Voilà, on a appareillé, en quelque sorte.
C'était Denis Lavant qui nous disait quelques mots du metteur en scène Vladislav Norko. Exercice en miroir, Vladislav Norko nous avait dit également quelques mots sur l'acteur Denis Lavant.
Denis Lavant, je l'ai vu au théâtre, je l'ai vu à Marseille, mais c'est surtout notre rencontre personnelle qui a fait beaucoup, qui m'a fait le choisir, et c'est surtout sa curiosité absolue du monde. C'est un homme qui est un appel d'air, c'est un homme qui est en appel de poésie en permanence, et quand il arrive dans une maison, qu'elle soit marseillaise, toulousaine ou encore plus loin du côté de Apt, il rentre avec la même curiosité et avec le même écarquillement des yeux qui dit c'est ça la vie, c'est vraiment ça la vie. Et c'est ce bonheur-là qui fait que nul autre que lui ne pouvait jouer ce rôle.
C'est un Siméon très physique, parce que Denis Lavant, il est costaud.
Mais comme le personnage a traversé quand même le désert, il a vécu la chaleur, les souffrances physiques, comme tous les laissés pour compte, il a une force physique extraordinaire. C'est-à-dire que il y a eu un exemple incroyable. Lorsque nous étions à Gap, nous étions assis sur une terrasse, on buvait un petit café avant d'aller au théâtre, et nous avons vu passer devant nous un homme boiteux, nu, vêtu d'un caleçon et d'un bonnet de bain. Et donc, je vous l'ai dit, 70 ans à peu près, boiteux, qui passait devant nous, dans cette nudité incroyable. La police a été conviée, je ne sais pas par qui, on l'a arrêté, et lui, très naturellement, a dit « Je viens de 30 km d'un hospice psychologique, et où vous allez ? Je vais à la piscine. » Il y a une telle force de naturel, une telle force de simplicité qu'on a presque envie de lui ouvrir les portes de la piscine et lui dire « Vas-y mon vieux, vas-y, nage un peu, reprends les fonctions et les éléments de ta vie ancestrale. »
Comment on le dirige, Denis Lavant ?
Par la confiance. Il pose beaucoup de questions, il fait beaucoup de lectures. C'est quelqu'un qui, par bonheur, se nourrit de lectures en permanence. C'est quelqu'un de joyeux, curieux, à condition qu'il ait la confiance. Donc je pense que c'est confiance est le premier mot qu'on puisse dire. Sinon, il est prêt à tout, il est extrêmement disponible. Nous nous ressemblons beaucoup. J'aimerais lui dire simplement, fais gaffe mon vieux, tu vas te casser en 4 morceaux.
Vladislav Smorko a fondé le Cosmos College à Lyon dans les années 80, puis il est ensuite parti au début des années 90 s'installer avec sa troupe en Irlande, et il est arrivé en 2001 à Marseille, dans les quartiers nord, pour investir une usine désaffectée au-dessus du village de Saint-Antoine, qui s'appellera la Gare Franche. Radio Grenouille avait suivi son installation à la Gare Franche, petite visite guidée du lieu.
Mon chien, t'as trouvé le ballon? Allez. Alors voilà, on est sur les hauteurs de Saint-Antoine, dans une petite campagne perdue, dans ces endroits un petit peu indécelables des faubourgs de Marseille. Une bastide qui penche un peu, mais qui n'est pas prétentieuse comme les maisons en Île-de-France ou dans la proximité de Paris. Ici, il n'y a pas de prétention, il y a une sorte d'austérité citadelle accueillante. Voilà. Donc voilà, c'est une maison qu'on a découvert. Les habitants de Saint-Antoine ne la connaissaient même pas eux-mêmes, tellement sa discrétion est évidente. Alors c'est dans un petit nid d'arbres, il y a quelques platanes, quelques acacias, tout à fait classiques. Et nous voici à son portail, face aux entrepôts chimiques d'Onyx. Alors, nous voici devant la grille de l'usine dite anciennement de Galet, qui fabriquait des fûts pour la pétrochimie. Et là, on se trouve dans une cour qui était, jadis, une véritable jungle. C'est-à-dire que depuis 1964, ça n'a pas été utilisé. Et donc, l'humus s'est déposé sur le ciment et a fabriqué une petite forêt qu'il a fallu débroussailler. Et nous voici à la porte de l'endroit dit la Zizine. Et alors, par quoi commencer, si ce n'est commencer par quelque chose qui est intraduisible à la radio, c'est le silence. C'est l'endroit du silence, ici. D'une lumière douce, changeante à chaque instant de la journée, et surtout un équilibre absolu de l'espace. Alors c'est un entrepôt qui fait moins de 1000 mètres carrés. Pour nos amis les auditeurs, on va quand même expliquer qu'il y a une charpente métallique, comme au début du siècle, on les faisait, on savait les faire, avec des verrières. Et c'est un entrelac de charpente métallique, de verrières et de tuiles. Le tout, pour dire la vérité, et jouer le jeu de la sincérité, c'est que le tout est en très mauvais état. C'est-à-dire que le vent a pris son impôt de tuiles, il a pris son impôt de vitres, il y a eu un peu de foudre, un peu de pluie, ce qui fait que c'est comme si c'était ouvert au jour désastreux. Ça ressemble à une usine après un petit désastre météo.
À l'occasion de son installation à la gare Franche, Snorko avait écrit un abécédaire inspiré par ce lieu du 15e arrondissement, juste en dessous de la cité de Plandao. Extrait.
La plus belle lettre de l'alphabet est le Z. Pour cette lettre, j'ai choisi Zone. En hommage à Andrei Tarkovsky, à qui je dédie le spectacle. Zone. Des extraterrestres sont venus un jour dans une usine abandonnée, nichée dans un recoin de la Sibérie, pour une sorte de pique-nique à la campagne. Seulement, ils sont repartis en laissant tout en désordre, y compris le temps. L'espace même y comportait des failles insoupçonnables. Une armée s'y est engouffrée pour tout remettre en place. Personne n'est revenu. On a jugé l'endroit trop dangereux. Il a été interdit. On l'a appelé la zone. Il ne s'agit que d'un roman, malheureusement. Le cinéaste Tarkovsky en a fait un chef-d'œuvre philosophique qui habite chacune de mes promenades. Et donc, forcément, chacun de mes travaux. Je sais qu'il est possible de distordre le temps dans un espace théâtral, également sa géographie. Le public attend un délicat merveilleux et je m'y emploie. Mais je rêve, comme tout vieil enfant, de pouvoir un jour, infléchir leur destin. Septembre est déjà là, à Marseille, alors que l'été n'a pas eu lieu. Des buissons épineux ont crevé dans le jardin et l'ortie ne s'y risque plus. Pas ma faute. Chaque jour, le labrador chien creuse des tunnels pour m'apporter des os humains datant de la guerre. Un pied dans la mémoire, un autre dans l'avenir. Je n'oublie jamais que le colosse de Rhodes s'est écroulé dans le port, victime sans doute de ce grand écart. Mes amis, mes chers amis du cosmos, je n'oublie pas non plus que vous avez sabré vos vacances pour assister à la naissance de notre lieu dit, la gare Franche, et je vous dédie ce boiteux soliloque. It could be.
C'est en souvenir de Snorko, mort dans la nuit du 4 au 5 mars dernier, une émission spéciale réalisée à partir d'archives radiophoniques de la Grenouille, une émission imaginée à l'occasion de la réouverture de la gare Franche après travaux et de la lecture que les acteurs Denis Lavant et Florence Mazur feront en ce jeudi 23 mai à 20h à la gare Franche de Zoologie des Faubourgs, un texte de Vladislav Snorko. Parmi les nombreux artistes qui ont fait partie de la bande à Vladislav Snorko, Richard Pourtieff a signé les lumières de nombreux spectacles. Radio Grenouille l'avait rencontré à l'occasion de la création du spectacle Koursk en 2004 au Théâtre Massaïa.
On bosse, on rabote, des fois on est KO.
Mais l'équipage est très bien formé.
Le Koursk et son équipage, les cosmonautes. Phil Spectrum, Jean-Jacques Ville, Christophe Croslebois, Marie-Jacques, Olivier Martin, Patrice Gouffier, Florence Mazur, Richard Pourtieff, Olivier Martin, Irina Vavilova, Tel Connu, Vladislav Snorko.
Je m'appelle Richard Pourtieff, je suis éclairagiste et je travaille avec Vlad depuis une dizaine d'années maintenant, depuis 92 en fait. Et voilà, c'est une complicité qui date depuis 10 ans et qui continue avec beaucoup de plaisir.
Qui évolue ?
Bien sûr qui évolue dans le travail, qui évolue dans la sensibilité, qui évolue dans la recherche, qui évolue, et heureusement d'ailleurs, c'est ça qui est super, c'est ça qui épanouit l'individu, c'est cette évolution. Moi en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec le cosmos, avec Vlad, qui est vraiment un frère de travail, de partage. Avec les comédiens, on a souvent aussi beaucoup de complicité, parce que, comme tu as pu sûrement le remarquer, on a, à part les tableaux qui se construisent comme ça en répétition, il y a aussi toute l'histoire de la conduite. C'est-à-dire que le spectacle a un rythme, il a quelque chose de magique qui s'imprime et qui s'inscrit dans le tableau. Et tout à coup, ça nous dépasse. Et simplement, on ne peut pas en parler, mais on le vit. Et on est tous à l'écoute de cette rythmique, de ce rythme qui évolue en fonction aussi des représentations, d'ailleurs. Des représentations, des répétitions, mais aussi, une fois que c'est lancé, il y a toute une sémantique et une syntaxe comme ça qui fait que on peut surfer dans un sens ou dans l'autre, mais on reste dans le tableau. Je pense que c'est un peu ça la magie des spectacles de Vlad, c'est qu'il y a cette immense liberté qui est finalement emprisonnée dans une scénographie, parce que la scénographie est là, on a un terrain de jeu, et là tout à coup on a toutes les possibilités d'aller dans un sens ou dans l'autre, et en fait on va dans un sens bien particulier parce que aussi cette logique s'imprime et que tout le monde est à l'écoute de tout le monde. Donc c'est toujours des spectacles qui sont issus d'une grande générosité de la part de tous.
Tu es attaché à l'esthétique de la compagnie, j'ai envie de dire.
Oui, par la force des choses, c'est sûr. Hein. C'est sûr, mais encore une fois, c'est un travail qui est fait en commun. C'est-à-dire que ce que je révèle, on va dire que si effectivement je peux voler la lumière, parce que la lumière, on la possède pratiquement jamais, mais en ce qui me concerne, de temps en temps, je la vole pour pouvoir la redistribuer aux acteurs. Et le grand maître de ça, c'est quand même le grand magistère, et celui qui est juge de ça, c'est quand même Vlad. Donc moi, je me vole la lumière, je la donne aux acteurs qui la prennent ou ne la prennent pas. et Vlad décide de ce moment-là ou pas. Voilà. En tout cas, il nous propose ça dans ses scénographies, dans son rythme de travail, dans les propositions d'impro. Parce qu'en fait, comme tu as pu remarquer, on a l'impression que tout est improvisé, mais il a quand même réfléchi à ça depuis de longs temps, on va dire, de longues nuits. Et tout ça est très préparé, très... comment dire, c'est vraiment au fil du rasoir, mais c'est très difficile de s'en rendre compte parce qu'on a l'impression effectivement qu'il y a une grande liberté, que tout le monde peut faire tout et n'importe quoi, mais ce n'est pas du tout le cas, au contraire, c'est vraiment très précis, un travail qui est assez précis parce que, encore une fois, on s'écoute beaucoup tous, on est tous à l'écoute les uns des autres et on fabrique le spectacle en commun.
Phil Spectrum de Leda Atomica, complice de Snorko, a signé la musique de Kursk en 2002. Voilà ce qu'il nous disait à l'époque de Snorko et de son travail avec lui.
Là, on s'était rencontrés par l'intermédiaire de Richard. Après, on a
joué. Martin.
Oui, de Richard Martin, oui. On s'était vu. Et puis, on a joué ensemble dans l'Opéra des Rats, où Richard lui avait demandé d'être comédien, je crois que c'est la seule fois où il a été comédien. Il avait fait le rôle du travesti dans l'Opéra des Rats. Et après, bon, bien sûr, on a sympathisé, parce qu'on a des goûts très communs de tout ce qui est de notre passé rock'n'roll, entre parenthèses, avec tout ce que ça inclut. Et puis il se trouve qu'on a été voisins. On est toujours voisins, il a toujours son appart au Grand Domaine avec moi. Et donc, comme il aime à dire, on s'est dit, bon, il faut qu'on bosse ensemble parce qu'on n'a aucun problème de frais de déplacement entre nous. Donc, non, je plaisante, mais c'est vrai qu'on s'est branché et on s'est retrouvé dans une maison inondée au Grand Domaine. Donc, c'est une conduite qui a pété chez un voisin à nous. Et on est rentré, on a défoncé la porte pour arrêter cette inondation, et on s'est retrouvé dans le cours. parce que tout était trempé, ça coulait de partout. Et Vlad était là, putain, il me faut cette scène, il me faut ci, il me faut ça. Tu la sens la musique, tu la sens. Mais moi j'étais en train de déconne pas, c'est chez mon pote, il y a tout qui fuit. Non, regarde cette lumière. et après il s'est dit, bon, le cours ça fait depuis que c'est arrivé, la catastrophe, on pense à faire ce spectacle. Moi je croyais que ça allait pas se faire, puis... Là, il m'a dit, ça y est, c'est comme il fait, on va le faire. Voilà. Je ne sais pas comment, mais on va le faire. Et voilà, ben on le fait.
Marie-Ange Janusilo, musicienne au sein de l'EDA Atomica, mais également comédienne, faisait également partie de l'aventure au cours. Elle nous dit quelques mots de Vladislav Norko.
D'abord, moi, c'est une drôle d'histoire parce que je suis originaire de Lyon et j'ai rencontré Vlad il y a 25 ans, quoi, à l'époque où il avait les cheveux au milieu du dos et il avait une vieille veste en peau de chèvre qui faisait la honte de son papa. Et moi, je devais être à peu près pareil de mon côté, quoi. C'était un peu les années hippies. Et donc, il s'occupait du Cosmos Collège. Déjà, il avait créé le Cosmos Collège, mais il était issu d'une compagnie qui s'appelait l'Oiseau Mouche, qui travaillait avec des malades psychomoteurs. Et moi, à cette époque, je travaillais avec une autre équipe et ce travail m'avait vraiment beaucoup, beaucoup intéressé parce que ça fabriquait un langage théâtral différent de celui qu'on pratiquait en se pensant aussi à la pointe de la nouveauté avec d'autres compagnies, quoi. Nous, on cherchait plus justement sur le naturalisme forcé, sur le théâtre épuré. Et lui cherchait sur autre chose, sur ses gestes qui étaient un peu issus de la folie ou des tocs ou des comportements un peu particuliers du corps de ces malades mentaux. Et bon, chacun son chemin jusqu'au moment où il se retrouve à Marseille, où on se retrouve voisins. Enfin, on se retrouve dans l'Opéra des Rats plus exactement, où il faisait le travesti. Et où tout d'un coup, on se dit qu'on aimerait bien travailler ensemble. Et puis, ça se fait sur le Courx. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup, beaucoup de propositions à l'acteur. Et que alors, est-ce que c'est parce qu'on se connaît tous bien qu'il a choisi effectivement les gens en fonction d'un affectif ou d'une confiance qu'ils ont avec lui? Mais en tout cas, ce qu'il nous livre, ça permet tout de suite de proposer. C'est pas des thèmes d'impro, hein, c'est marrant, c'est plutôt des choses qui ont rapport à la sensibilité, à la poésie, à un espèce de monde intérieur qu'il évoque. Mais et des petites choses, hein, souvent, on part pas dans des grandes tragédies, on part pas dans l'expression.
Souvent, enfin, les petits morceaux de répète que j'ai vus, c'est qu'ils vous racontent des histoires, en fait.
Ouais, c'est ça. Ils racontent des petites histoires, et à partir de ces petites histoires, ben, on les joue. Et puis, ben, lui, il est là, et puis il dit oui ou non, 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 ou il dit rien. C'est vrai que tu sais pas trop, mais comme on est assez en confiance... Oui, quand quelque chose ne va pas, quand ça ne lui plaît pas, il le dit et il le recentre, il le reprécise. Sans ça, le reste, ben, je crois qu'il attend que ça se fasse. Il est très très vigilant sur le fait que c'est la tragédie du Courx, mais il ne veut pas d'un univers tragique. Donc il est très vigilant sur le fait que ce soit une petite chose un peu rose tendre et rigolote, quoi. Mais c'est vraiment que là-dessus qu'il précise, quoi, qu'il ne veut pas de tragédie.
Comment tu définirais la magie Snorko ?
Si je remonte à son histoire, je crois que le fait d'être issu de ce théâtre de l'Oiseau Mouche et d'avoir travaillé avec des gens dont le réel est vachement plus loin que le nôtre, je rappelle, à l'Oiseau Mouche, c'était avec les malades mentaux, je crois qu'il est passé dans un deuxième plan de réalité quand il fait du théâtre. Et du coup, c'est assez génial parce qu'il tombe dans l'universel. Enfin, hein, pareil, dans l'universel de notre culture judéo-chrétienne. Je ne sais pas comment un sauvage d'Amazonie ressentirait les spectacles de Snorko. On parle toujours de notre culture, mais il tombe en tout cas dans quelque chose de petite chose qui évoque une sorte de mémoire collective, même parfois au-delà des cultures, parce que je crois que l'Est, la culture de l'Est et notre culture occidentale ne sont pas les mêmes, mais ces choses qu'on joue, oui, elles se retrouvent, ouais, c'est plus profond mais ça reste quand même du monde de civilisé. Quoi.
Il faut l'être, hein, disponible.
Bah oui, parce que...
On ne peut pas être marteau comme ça.
Non, parce que sa notion du temps, elle est quand même très très particulière. Au début, d'ailleurs, on rue un peu dans les brancards, parce qu'on a l'impression de passer très longtemps à rien faire. Et puis quand tu vois finalement en 20 jours, c'est pas 20 jours qu'on travaille, en 15 jours, le résultat, bah, le rien faire, il a quand même été très très productif. Donc on n'a pas dû passer tant de temps que ça à rien faire. Mais c'est vrai qu'il y a des attentes, il y a... Très souvent, tu le vois qui tourne en rond, un peu comme un lion en cage. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti boire un coup. Pourquoi il est sorti de la salle? Et tac, il revient, il a une idée. Enfin, une proposition. Mais c'est vrai que ça, pour des gens qui aiment bien le besogneux, ça doit être difficile. Ou qui aiment bien être très, très guidé, ça doit être très difficile. Moi, je sais que je suis heureuse quoi, quand on me demande de faire des choses très, très précisément, en me disant, gna, 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 tu fais ça, je rue toujours dans les brancards. Alors... Là, c'est un itinéraire qui me proposait. C'est pas un chemin balisé au centimètre. Déjà, quand moi j'avais repris le spectacle, le rôle dans Corrida, j'avais senti ça des comédiens. J'avais fait donc 5 représentations et j'avais senti cette histoire d'itinéraire et puis cette histoire aussi de générosité que finalement toi tu t'as envie de donner quand on te laisse la place de donner. Tu es pas Parce que c'est vrai qu'hier, il s'excusait en disant « Voilà, je suis désolé, je suis pas très précis, je vous laisse un peu dans... » Je me dis « Putain, à côté de certains metteurs en scène, mais c'est formidable quoi, de travailler avec toi. »
Le dernier spectacle de Snorko aura donc été Le Passage du Cap Horn, créé en 2010 à Clermont-Ferrand. Au moment de sa présentation, quelque temps après, à la cartonnerie de la Friche Label de mai, Snorko était passé par le studio de la Grenouille pour nous en dire quelques mots. Le Passage du Cap Horn est le dernier spectacle de Vladislav Snorko, ce grand voyageur qui a jeté l'ancre avec son Cosmos Collège il y a quelques années à Marseille, à la Gare Franche, entre Plandau et Saint-Antoine. Le Passage du Cap Horn, un spectacle fabriqué avec ses complices de toujours, parmi lesquels les acteurs Florence Mazur, Jacques Pabst et Philippe Vincenot, une actrice et deux fantômes pour une odyssée rêveuse et bricolée entre rires et peurs. Un spectacle qui sera présenté à la Friche Label de mai par le théâtre Massalia du 14 au 17 février. Un spectacle qui avait donné lieu à une étape de présentation à la Gare Franche il y a quelques mois. Vladislav Snorko.
C'était une forme d'avant-première, c'était une forme test où on livrait le travail tel quel. Et ce travail, c'est une réflexion d'abord... très longue, parce que moi je suis l'escargot de l'équipe française de théâtre, et je prends le temps de bien choisir les acteurs, de bien choisir le propos avant d'y aller. Et voilà, il a reçu un accueil faramineux, au-delà de toute espérance, et j'en suis ravi et revigoré.
J'ai même sous les yeux un article des Lettres françaises qui commence par Vladislav Snorko, 2. Trésor national.
C'est terrible, on dirait une épitaphe sur une tombe. Et j'en suis tout à fait étonné, bouleversé, parce que je vois pas en quoi je représente le théâtre français, en quelque sorte. Il y a des milliers de théâtres qui mériteraient beaucoup mieux cette appellation que moi-même. Disons qu'on a pris de l'audace, on a pris des risques, on a outrepassé certaines règles du théâtre, comme dans le nouveau cinéma, on a oublié les règles de l'acteur. Fallait que le spectateur ait l'impression d'être devant une chose qui se fabrique et non pas devant un produit fini. Et il faut savoir que c'est un trio. Je peux pas dire de clown parce que encore dans l'oreille du spectateur, ça peut être réducteur, mais d'être humain complètement déboussolé par étonné d'être encore en vie. Et il décide de prendre une grande décision absolument absurde. Et c'est là où je rejoins quelqu'un que je n'ai pas connu malheureusement, c'est Samuel Beckett.
Le théâtre de Snorko, on le qualifie souvent de théâtre d'image. C'est un qualificatif que tu accepterais pour ce spectacle, le passage du Cap Horn ?
Non, le théâtre d'image, c'est extrêmement réducteur. On peut dire aussi de théâtre musical, pourquoi pas. Mais j'aime bien, et je pense que les enfants ou les grands enfants ou les anciens enfants ne sont pas dupes. Ils aiment beaucoup que on lèche bien la lumière pour montrer à quel point on tient compte de leur désir de spectateur. Moi, je travaille avec des acteurs que j'aime beaucoup, une équipe technique que j'aime beaucoup, mais le spectateur reste le but, le cap à atteindre. Mon Cap Horn, c'est l'audience, le spectateur.
Il y a du texte ?
Bien sûr qu'il y a du texte.
Et c'est quoi ces textes ? C'est toi qui as écrit ?
Je les prends au vol et dans les improvisations. Ce sont des textes absolument terre à terre. Par exemple, je cite bah quoi avec l'accent ch'ti ou picard. Il y a de la roaco et puis il y a pas d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors le room service qui tourne autour du bateau et qui dit nous avons du champagne, mademoiselle, du meilleur champagne. Il en reste quelques bouteilles. Les seules bouteilles qui restent sont dans la cour du royaume d'Angleterre. Est-ce que vous en voulez une bouteille? Vous savez qu'il n'y a pas de relation d'argent entre nous, hein. Elle dit non, je veux un cacolac. Et là, tout à coup une chute libre. Non mais nous avons du banania, du Nesquik. Mais le cacolac, je suis désolé, on n'en a pas. Et ça crée un drame uniquement à travers ce manque. Elle a tellement manqué de choses, cette jeune fille skipper par défaut, et les fantômes ont manqué tellement d'une présence vivante et fraîche que tout à coup, on a l'impression que tout va s'effondrer comme un château de cartes. Et tout le texte tourne autour de ça.
S'il vous plaît, monsieur.
Room service, mademoiselle. Room service.
Une chaise longue et un cocktail de fruits, s'il vous plaît.
Ma petite demoiselle, nous avons aussi du champagne, Dom Pérignon 1954.
Aujourd'hui, 29e jour de lutte au Cap Horn.
Attention, terre tous, de Wassin Gambarak. Pour commandant Pumetière.
Et toujours pas de Pacifique.
Les bateaux faisant route à l'ouest ont signalé des glaces en dérive.
Aujourd'hui, 29e jour de lutte au Cap Horn.
Entre les longitudes de 49 à 51.
Le pont supérieur du paquebot, monsieur, s'il vous plaît.
Mademoiselle peut compter sur moi.
Attention, terre douce de Wassing à Marie.
Si mademoiselle veut bien me suivre, le commandant vous attend.
Et toujours pas de Pacifique.
Pour commandant Pumetière.
Je vous sers le chocolat sur le pont supérieur.
Où est mon ouvre-boîte?
Ma petite demoiselle.
Où est passé mon ouvre-boîte?
Aujourd'hui, nous avons un excellent filet de requin-baleine.
Et sa sauce parapluie?
Oh, j'ai perdu mon ouvre-boîte.
La friture d'hippocampe, sauce Ducasse.
Non.
Sur son lit d'araignée de mer.
L'ouvre-boîte.
Le moelleux de méduse.
En hachis. Oh,
j'ai perdu l'ouvre-boîte.
Et la douzaine d'huîtres.
Et son
collier de perles.
J'ai perdu mon ouvre-boîte.
Le passage du Cap Horn, Vladislav Snorko.
C'est simplement l'histoire d'un village qui commence à ronchonner parce que personne ne connaît exactement où se trouve la mer, parce que le port est ensablé et on ne voit jamais, et embrumé surtout, et on ne voit jamais la mer. Et pourtant c'est un port, un ancien petit port de pêche. Alors le maire qui a la chance de posséder un téléviseur voit le départ des grandes courses atlantiques, voit les fanfares, voit les accueils, les journalistes, les caméras de télévision, et il se dit pourquoi pas nous. Bon, c'est un vieux maire un peu pochetron, complètement à l'ouest, parce que ben voilà, l'âge aidant, et puis cette solitude de ce village qui sent terre, qui sent sable. Chaque jour un peu plus, il décide de prendre le seul bateau qui est encore là, de le réquisitionner, et puis ben, il faut un skipper. Et le skipper, il n'y en a pas, il n'y en a plus, il n'y a plus personne, il n'y a plus de pêcheurs. Ce village existe réellement, je l'ai visité il y a quelques décennies, et il décide de prendre la seule adhérente du club de gym de ce village, un club municipal de gymnastique. Donc c'est une gymnase, elle est costaude, elle va savoir, et son adjoint, l'adjoint au maire, tout aussi pochetron que lui, disent ben on va l'envoyer pas au pop-corn, mais au Cap Horn. Il dit, c'est où ça? Je sais pas, mais là, ça, j'en ai entendu parler. Il paraît que nous, on va en entendre parler parce que les médias vont venir ici, les télévisions. On sera en première page des journaux. Donc, il convoque cette jeune fille qui est complètement rougissante d'avoir affaire au maire et qui accepte, sous prétexte que c'est une croisière, d'aller au Cap Horn. Alors qu'elle ne sait même pas où ça se trouve.
Cette idée d'une personne qui part sur un chemin aventureux, sans vraiment connaître les points cardinaux de ce chemin, c'est quelque chose qu'on a pu voir, par exemple, dans les boutiques de Canel ou dans Boucherie Chevaline.
Exactement, c'est un parcours à tâtons, on va dire, ou à l'aveuglette. C'est-à-dire que nous sommes dans une station de métro où tous les noms des stations ont été enlevés et il n'y a plus d'éclairage de nuit. Et on croise des gens qu'on ne peut pas reconnaître. Et on est obligé d'avoir accès au rire, sinon on sombre dans un naufrage personnel. Donc le rire est la bouée de sauvetage de ce très beau spectacle, et j'en remercie encore toute l'équipe.
C'était Vladislav Snorko, le passage du Cap Horn, avec Florence Mazur, Jacques Pabst et Philippe Vincenot, et présenté du 14 au 17 février par le Théâtre Massalia à la friche La Belle de Mai. Place de 5 à 7 euros. Contact réservation au 04 95 04 95 70 sur Théâtre Massalia. 2, 3, 4, 2, 3, 4, C'est avec cette interview sur le passage du Cap Horn, un spectacle de 2011, que se termine En souvenir de Snorko, une émission spéciale réalisée à partir d'archives radiophoniques de Radio Grenouille, une émission imaginée à l'occasion de la réouverture de la gare Franche après travaux et de la lecture que les acteurs Denis Lavant et Florence Mazur feront ce jeudi 23 mai à 20h à la gare Franche de Zoologie des Faubourgs, un texte de Vladislav Snorko, en hommage à Vladislav Snorko. Entrée libre, plus d'infos et contacts sur cosmoscollège.org ou au 04 91 65 17 77.
Six.